Vous écoutez France Culture.
Terre à Terre, le magazine de l'environnement. En guise de titre, ce matin, lecture d'une lettre. Bonjour, j'ai visité votre site et j'ai découvert l'annonce pour l'émission qui nous concerne. Je vous livre mes impressions sur l'utilisation du terme 24e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl. La catastrophe nucléaire me semble nécessiter un langage particulier, car elle a un début, mais, à l'échelle humaine, pour des dizaines de générations, elle n'aura pas de fin. Les anniversaires de grands moments douloureux, dont les catastrophes, sont tous marqués par le fait qu'ils ont eu un début et une fin, même s'ils peuvent influencer psychologiquement, sociologiquement ou politiquement les sociétés par la suite. L'information au sujet de la catastrophe de Tchernobyl, qui physiquement est en cours, donc infinie, est fortement affectée par le langage emprunté aux catastrophes finies. Catastrophe de Tchernobyl, commémoration de Tchernobyl. Pour ce 26 avril, jeudi, la catastrophe de Tchernobyl entre dans sa 25e année. Signé Paul Rouleau. Rencontre ce matin avec les vigies qui, depuis 3 ans, se tiennent chaque jour devant l'OMS à Genève.
Vous êtes arrivé à quelle heure ce matin ?
À 8h, comme tous les jours. Donc c'est la vigie, ça se passe de 8h à 18h, sans interruption.
Sans interruption, ça veut dire que vous restez debout à ce coin de rue, dans le froid, il neige aujourd'hui.
Oui, effectivement, nous sommes là, debout, mais comme nous sommes trois, on peut se relayer et donc faire des pauses de temps en temps, quand on a trop froid, comme c'est le cas aujourd'hui. Parce que quand on a fait une heure de vigie, ben, c'est déjà pas mal. Quoi.
Et comment est-ce que vous faites pour vous réchauffer ?
Oh, mais il y a des bâtiments assez accueillants autour, pas celui de l'OMS, mais... et puis donc, ben voilà, il y a un radiateur dans le hall d'entrée, donc on va se mettre contre le radiateur et puis on revient un quart d'heure après. Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a écrit sur vos pancartes ?
Alors, sur nos pancartes, on a écrit donc « WHO must fulfill its mandate to protect health », c'est-à-dire l'OMS doit remplir son mandat pour protéger la santé. Et puis on a une autre pancarte qui dit « Cover-up and non-assistance equal crime », c'est-à-dire la dissimulation de la vérité et la non-assistance égale crime.
Pourquoi est-ce que vous faites ça ?
Ben parce que personnellement, je fais ça parce que je trouve absolument insupportable qu'un organisme comme l'OMS, qui est censé promouvoir la santé, ben ne fasse pas son travail et de manière scandaleuse depuis 50 ans, à cause de cet accord donc qu'ils ont avec l'AIEA et qui les empêche de faire des études, ou en tous les cas d'organiser des études autour des conséquences de Tchernobyl, et ce qui fait qu'il y a des gens qui continuent à souffrir et à mourir à cause de ça, quoi, sans que l'OMS fasse quoi que ce soit.
Vous êtes genevois vous-même ?
Non, je suis originaire de France, et donc les vigies, il y en a qui viennent d'un peu partout, beaucoup de Français, des Suisses, et puis d'autres aussi de différents pays qui ont envie de soutenir cette cause, parce que c'est un problème mondial, c'est pas seulement... un problème local. Et...
Vous venez spécialement pour ça, à Genève ?
Oui, je viens spécialement pour ça. Oui. Je crois que c'est mon 10e séjour à Genève, depuis le début, depuis 3 ans à peu près qu'on est là. Quoi.
Vladimir Tchertkov, vous avez travaillé longtemps à la télévision suisse-italienne et vous êtes un petit peu l'interface entre les Russes, puisque vous êtes russophone, et ce qui s'est passé au Bélarus et autour de Tchernobyl, et les Italiens, donc j'imagine, et les francophones d'Europe de l'Ouest. Vous avez énormément aidé à faire que des informations circulent dans les deux sens et à remettre en connexion, je dirais, un certain nombre de choses qui étaient totalement dissociées. Est-ce que vous aviez connaissance d'un accord particulier qui unissait l'OMS à l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, avant la catastrophe de Tchernobyl ?
Pas du tout. Je ne savais pratiquement rien de ce qui représente la catastrophe de Tchernobyl. Je suis journaliste, je ne suis ni médecin, ni scientifique, physicien. J'ai donc tout appris grâce au métier que je fais, c'est-à-dire des documentaires d'approfondissement, progressivement, aussi grâce à la langue russe qui m'a permis d'éviter d'être piloté à l'époque encore de l'Union soviétique par des collègues qui vous aident pour la langue. Je suis entré assez rapidement en contact avec des sources d'informations qui se réveillaient fortement à l'époque grâce à la perestroïka de Gorbatchev, etc. Et c'est progressivement que je suis rentré en contact avec des personnes qui, elles, sur le terrain, étaient compétentes, comprenaient de quoi il s'agissait et qui m'ont appris un tas de choses. Et ça fait déjà 20 ans que je suis dans cette thématique. Et donc, je ne savais absolument pas, c'était une découverte assez surprenante, qu'il y ait un accord entre l'OMS et l'AIEA qui pratiquement verrouillait la possibilité de connaître, à part le fait d'informer, au niveau carrément de la recherche scientifique, de l'accumulation de données d'une rigueur minimum. Sur une expérimentation aussi énorme que Tchernobyl, unique au monde, il y a eu un blackout politique, systématique, de la part des soviétiques eux-mêmes, et ce qui m'a surpris également, avec la complicité extrêmement, même plus rigoureuse de la part de l'Occident, vis-à-vis des soviétiques, de minimiser les conséquences de Tchernobyl. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai su qu'existait un accord carrément qui remontait à 59, où on pouvait peut-être encore rêver sur l'essor progressif et utile pour la paix et le bien-être de l'humanité du nucléaire, mais qui après Tchernobyl devenait un scandale insupportable.
Cet accord, de quelle manière est-ce qu'il lie l'OMS à l'AIEA ?
Pratiquement, il faut que les deux parties, ils sont liés par un accord qui, dans le domaine du nucléaire, empêche l'une ou l'autre des deux parties d'entreprendre des recherches, des publications, des initiatives sans l'accord de l'autre. Il est clair qu'après Tchernobyl, celui qui vient, qui est lésé, c'est évidemment l'OMS qui doit défendre la santé, qui est la cible des radionucléides, qui est la victime de cette catastrophe, parce que ça mettait en crise la crédibilité du nucléaire, parce que c'est encore en vigueur. Et que donc, sur la base de cet accord, où il y a des articles explicites de limitation d'initiative, s'il n'y a pas un consensus entre les deux, c'est-à-dire un conflit d'intérêts évident, qu'ils sont en quelque sorte légitimés d'une façon extrêmement transparente. C'est-à-dire, c'est même pas légitimés, ils sont encadrés dans cette espèce de d'accord politique qui en réalité dépend du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'AIEA étant l'unique agence de l'ONU qui est subordonné, qui est lié directement au Conseil de sécurité, alors que les autres, c'est au Conseil du développement économique et social, a, dans le domaine du nucléaire, militaire et civil, une prééminence absolue sur les autres. C'est ce que nous a déclaré d'ailleurs l'ex-directeur général de l'OMS, que nous avons interviewé à Kiev, à la conférence où il était président d'honneur, n'était plus directeur général. Il a été empêché de publier les actes, en vertu de cet accord, de publier les actes de la très intéressante conférence que lui avait organisée 10 ans après Tchernobyl à Genève en 1995, très contradictoire entre les scientifiques de terrain, les médecins et les officiels, les représentants des agences de l'ONU. Il y avait des contradictions, même très chaudes, dans les débats, qui... C'est le professeur Fernet, Michel Fernet, médecin, qui s'occupe de cette réalité depuis l'origine, qui nous a raconté des situations qui sont automatiquement, pour quelqu'un qui fait des documentaires, filmables. C'était carrément du théâtre. Pendant les pauses de café, il y avait des discussions extrêmement chaudes, violentes, contradictoires. Et il m'a dit qu'ils étaient furieux, des agences, à cause de ce qui émergeait par le truchement des scientifiques et des médecins des trois pays blessés, Russie, Bélarus et Ukraine. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de filmer intégralement l'autre conférence qui est arrivée en 2001 avec les mêmes protagonistes. Et c'est là où Hiroshi Nakajima nous a dit qu'il a été pratiquement bloqué. Donc, progressivement, j'ai eu d'abord l'information, puis ensuite la confirmation la plus haute possible, vu que c'était le directeur général de l'OMS qui a été bloqué, de cette censure pratiquement sur la vérité scientifique que nous sentons de légitime, nous, de qualifier de criminel.
Donc censure sur des vérités scientifiques qui émanaient d'experts, de médecins issus directement des territoires contaminés. Est-ce que néanmoins l'OMS de son côté a conduit un certain nombre d'enquêtes sur le terrain et est-ce que l'OMS est arrivé à d'autres résultats ?
L'OMS, c'est pas très clair qu'est-ce qu'elle a fait en réalité. Elle n'a pas fait de recherche sérieuse. Par exemple, la cohorte, comme c'est un terme utilisé en science, l'énorme cohorte des liquidateurs. On parle de 600 000, 800 000, même 1 million de jeunes en pleine santé, enfin jeunes ou âge moyen, en pleine santé, mobilisés militairement pour éteindre l'incendie, pour décontaminer les territoires, qui ont été contaminés d'une façon énorme. Nous avons posé la question, nous avons eu une rencontre à l'OMS à ce sujet, enfin en général sur tous ces problèmes. Et nous nous sommes étonnés devant eux, comment se fait-il que vous n'avez fait aucune recherche et que vous continuez à parler de 56 morts en tout et pour tout, alors que le médecin-chef de Russie, à la fameuse conférence de Kiev où Hiroshi Nakajima m'a parlé, avait annoncé que 10% des liquidateurs inscrits sur le registre des victimes en tant que liquidateurs de Tchernobyl, 10% étaient décédés en 2001 et 30% étaient invalides sur une liste de, si je me souviens, 175 000 liquidateurs dans le registre de Russie. Si vous extrapolez ça sur 1 million, c'est ce que disent les liquidateurs, qu'en réalité tout était censuré. Donc le nombre accepté par les agences de l'ONU, c'est entre 600 000 et 800 000. Eux parlent d'un million. 10% de morts sur 1 million, c'est 100 000. Alors qu'ils parlent de 56 000 à l'OMS. De 56 sans aucun zéro après. 56 morts en tout et pour tout par irradiation externe. Bref, ils ne reconnaissent pas l'irradiation interne à faible dose qui font la catastrophe sanitaire actuelle. Au Bélarus, par exemple. Au Bélarus, il y a eu récemment une information à la télévision qui n'a plus été répétée, que les jeunes bons pour le service militaire se sont réduits à 5%. 95% sont exclus pour raison de santé. C'est une tragédie sanitaire qui s'aggrave d'une année à l'autre et qui est due non pas à la contamination des sols qui progressivement diminue avec le temps, avec le fait que ça s'enfonce dans le sol, etc., mais à travers l'alimentation qui est toute contaminée. Et ça durera encore des générations.
Mais est-ce que vous avez le sentiment, Vladimir Tchakov, que l'AIEA a eu une influence, une incidence sur les chiffres avancés par l'OMS ?
Elle a pratiquement officiellement pris en main les soi-disant recherches et donc les conclusions officielles sur les conséquences de Tchernobyl, parce que quand l'URSS commençait à se décomposer, 4 ans après Tchernobyl, on a appelé au secours. Les Russes, les Soviétiques ont appelé au secours. Ils ont demandé à l'AIA et à l'OMS d'intervenir pour se défendre, le pouvoir du Kremlin, se défendre contre les accusations qui commençaient à monter de la population, des représentants, des premiers élus démocratiquement au Parlement soviétique sur les responsabilités de Tchernobyl. Ils ont demandé l'intervention des agences. A été mis en place le projet Tchernobyl, à savoir des enquêtes, des recherches faites par les experts et les spécialistes de ces agences dans les territoires, qui ont été publiées en 1991. Dans le texte distribué par Hiroshi Nakajima à la conférence qu'il avait organisée, il a fait la reconstruction chronologique des événements et en conclusion que ce programme Tchernobyl scientifique officiel a été conclu, a été rédigé pratiquement par l'AIA, Agence internationale de l'énergie atomique, sur des questions de santé. C'est-à-dire que l'OMS s'est trouvé pratiquement exproprié de sa tâche. C'était complètement soumise à celui qui commandait. Qui commande, c'est eux.
Alors de fait, ce qui s'est passé, on a eu l'occasion déjà d'en parler à terre à terre, mais c'est bon de le rappeler, Vladimir Tchertkov, vous étiez venu vous-même nous en parler. Il y a eu néanmoins des médecins extrêmement courageux, qui dans un environnement plus qu'hostile, se sont livrés à un travail d'enquête épidémiologique sur les territoires contaminés et même au-delà. Vous en avez rendu compte dans un livre, La catastrophe de Tchernobyl, et puis un autre livre vient d'être traduit en anglais. On le doit à Yablokov et à Nesterenko. Nesterenko qui avait été le fondateur de l'Institut Belrad, il était venu en parler à Terre à Terre, il est décédé depuis, assez récemment. Mais ce livre fait en quelque sorte la somme de toutes les informations qui sont aujourd'hui disponibles sur les différents types d'affections qu'on peut attribuer à Tchernobyl.
Donc le premier scientifique du côté santé que j'ai rencontré, c'est l'anatomopathologiste Bandajewski qui a révélé la corrélation entre les faibles doses incorporées dans l'organisme et la destruction pratiquement de tous les organes vitaux quand la concentration est forte. Et c'est le premier à travers lequel j'ai compris le mécanisme de cette... Très simple d'ailleurs, parce que les scientifiques experts des agences nous font croire que c'est seulement eux qui sont capables de comprendre. C'est très mystérieux, c'est très fin comme mécanisme nucléaire, alors que n'importe qui peut facilement comprendre comment on empoisonne un organisme. Et c'est de ça qu'il s'agit. Bandajewski l'a démontré et il a payé cher parce qu'il a été emprisonné ensuite par un faux procès, etc. Et c'est ce que j'ai mis, une des parties importantes du livre Le crime de Tchernobyl, publié par Actes Sud, qui raconte le côté, disons, vécu. Grâce aussi aux scientifiques qui sont interviewés, également il y a la dimension scientifique. Mais ce n'est pas un livre scientifique, c'est un livre de journaliste qui s'est beaucoup informé, qui a accumulé un tas d'informations et que c'est eux les auteurs pratiquement du livre, depuis les paysans des villages qui témoignent jusqu'aux scientifiques et médecins, etc. L'autre livre, c'est celui de Yablokov, Alexei Yablokov, et les deux Nesterenko, père et fils. Le père est décédé, comme vous dites. Et ça, c'est, il est basé sur environ 2000 publications en langue russe qui ne sont pas reconnus par les agences de l'ONU. Ils ne sont pas acceptés dans le dialogue scientifique parce qu'ils ne sont pas validés, comme on dit. Et l'un des fonctionnaires interviewés à Kiev nous a dit qu'ils ne reconnaissent que les documents validés, ce qui est logique, ce qui est correct du point de vue scientifique, sauf que les validations qu'ils reconnaissent viennent du CEA et de Los Alamos, c'est-à-dire les deux agences au niveau international qui ont inventé la bombe atomique. Et ça, ils le disent de façon sûre, tranquille, légitime. C'est la vérité scientifique. Les 2000 publications en langue russe sont pratiquement exclues d'une crédibilité scientifique pour deux motifs. Un, très facile, qui aide énormément le lobby atomique, c'est la langue. Ils ne sont pas traduits en anglais. Ils ne sont pas rédigés ponctuellement comme c'est... exigé par les grands journaux scientifiques, suivant des protocoles, suivant une façon de présenter les résultats des expérimentations, des recherches. Ils sont pratiquement évacués. Alors que c'est à supposer même que ce ne soit pas fait selon les canons les plus rigoureux scientifiques, on ne peut pas ignorer cette masse énorme de matériel, de terrain, sans s'y pencher, sans y faire des vérifications, vérifier leurs recherches par des recherches correctes. On les ignore simplement. Et ça, c'est l'énorme scandale contre lequel nous faisons la vigie d'Hippocrate, nous l'avons appelé. À savoir, ils ont trahi le serment d'Hippocrate, l'OMS, qui se soumet à cette pseudo-vérité qui est une pierre tombale sur la catastrophe pour le lobby nucléaire. Tchernobyl, c'est la catastrophe du lobby nucléaire. Et c'est pour ça qu'ils prennent sur eux le crime devant l'humanité de cacher les désastres que, ne serait-ce que dans le segment seulement de Tchernobyl, crée à l'humanité qui le subit. Mais ça concerne tout, ça concerne les bombes à l'uranium appauvri, ça concerne les expérimentations atomiques depuis 60 ans qui contaminent la planète, qui contaminent les générations. C'est vraiment un rapport de force absurde entre cette puissance qui domine et les 240 vigies. Mais convaincu qu'il faut rester ici et dénoncer cela, l'histoire a des imprévus. La roue de l'histoire ne se ferme jamais. Elle s'est accélérée énormément, l'histoire, ultimement. Donc, il faut être présent au cas où il y aurait des changements, où il faut saisir la chance au vol. Et c'est ce que font les vigies.
Alison Katz, vous avez travaillé longtemps, 18 ans, à l'OMS en qualité de rédactrice pour des documents dans le domaine des radiations nucléaires ?
Non. Pas du tout dans le domaine de radiation et santé, surtout dans le domaine des maladies infectieuses, les maladies dites de pauvreté, et surtout le sida.
Qu'est-ce qui fait que vous êtes intéressé à un moment aux actions qui sont menées pour demander la séparation de l'OMS et de l'AIEA?
Alors, je suis membre de Contratome, qui est l'organisation à Genève qui a largement contribué à arrêter Superphénix. Mais membre sans être du tout experte. Et quand l'action a commencé pour Independent Who, ils ont voulu contacter quelqu'un à l'intérieur de l'OMS. Et Contratome a donné mon nom.
Donc c'est comme ça que vous êtes rentré en contact. Est-ce que peut-être vous pourriez nous expliquer un peu la façon dont fonctionne l'OMS de l'intérieur, pour qu'on comprenne mieux ce que fait une institution onusienne comme celle-là, qui est en charge de la santé publique des populations dans le monde entier?
Oui. Alors, c'est forcément très partiel, mais à travers mes 18 ans d'expérience, je suis convaincue que le problème majeur, c'est le problème de conflit d'intérêts. On pourrait dire que l'OMS, comme le reste de l'ONU, les autres agences, sont dominées par trois pays, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, le G8 peut-être, mais ces trois pays en tout cas, largement dominés. Et leur influence, c'est souvent dans l'intérêt de leur propre corporation transnationale, TNCs. Évidemment, donc ça c'est lié à un autre problème qui est que même les gouvernements aujourd'hui sont très déficitaires démocratiquement parce que les gouvernements sont eux-mêmes tellement sous l'influence des intérêts privés commerciaux.
Mais comment est-ce que ça se traduit concrètement dans l'organisation ?
Alors, juste pour donner un exemple très simple, si on voulait mettre à l'ordre du jour la question de Tchernobyl, ça serait un veto. Il y aurait un veto qui viendrait de la part des États-Unis ou de la Grande-Bretagne ou même de la France. Et on ne saura même pas, c'est des choses qui se passent derrière dans les couloirs, on ne saurait même pas comment ce veto a été organisé.
C'est-à-dire qu'il est possible de demander l'inscription d'une question, mais on ne sait jamais comment la décision a été prise d'accepter ou non.
Oui, je crois que comme dans toutes les instances internationales, comme l'OMC, les décisions ne sont pas prises en public, elles sont prises dans les couloirs. On ne saura jamais. Il va sans dire que n'importe quelle question nucléaire va se buter contre le lobby nucléaire. Et j'aimerais juste préciser que la différence entre le lobby nucléaire et les autres lobbies industriels, c'est que ce n'est pas juste un intérêt commercial. Là, on a des intérêts géopolitiques militaires immenses. Donc, on est face, nous, à Independent Who, à le lobby le plus puissant du monde. Ce qui est le plus dangereux dans ce cas, c'est que c'est un lobby qui fait autorité. Tandis que peut-être on prend Monsanto, maintenant le public est un petit peu au courant que ça c'est des intérêts commerciaux. Mais quand c'est un gouvernement qui vous dit, et c'est son autorité nationale qui vous dit que le nucléaire et la sécurité c'est assuré, etc., le public ne sait pas quoi penser. Et en plus l'OMS jouit d'une prestige immense, même aujourd'hui, même à travers plein de scandales, elle jouit d'une prestige dans les yeux du public. Elle a l'autorité. Maintenant, si elle méritait cette autorité, tout ça, ça serait excellent. Ça serait une très, très bonne chose. Mais je pense que le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas tellement se fier aux directives de l'OMS parce qu'elle est tellement sous influence du secteur privé.
Est-ce que c'est uniquement dans le cadre du nucléaire ou bien est-ce que c'est plus large ?
C'est vraiment plus large. À mon avis, on pourrait prendre absolument n'importe quelle matière en domaine de santé et trouver l'influence de l'industrie. Ben, notamment, évidemment, dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine des produits chimiques. Là aussi, on va trouver que sur les comités d'experts, vous allez trouver des représentants de l'industrie. Maintenant, notre position, ceux qui ont des objections à ces conflits d'intérêts. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas une interaction avec le secteur privé. Évidemment, on a toujours interagi avec le secteur privé, mais dans des cadres très très bien spécifiés. Ils ne sont pas là à part entière pour dessiner les politiques de santé publique. Absolument pas. D'ailleurs, ils devraient être exclus. Ils sont là pour être consultés en tant que quelqu'un qui agit dans l'intérêt privé. Et ça, il y a 30 ans, c'était compris. Mais ces derniers 30 ans, à cause de beaucoup de facteurs, mais en gros parce que l'OMS manque d'argent, elle doit faire appel à des sources privées. Et c'est la source de toute cette désinformation dans tous les domaines.
Donc depuis maintenant 3 ans, des vigies stationnent devant les locaux de l'OMS à Genève tous les jours. Est-ce que vous savez comment s'est vécue la présence de ces personnes silencieuses ?
Je crois que c'est extrêmement gênant pour l'OMS. Je vous raconte en premier le premier jour où on était là, en 2007. On n'était vraiment que maximum 25 personnes, tous de mon âge, donc des gens de 50 et 60 ans. Et trois personnes devant l'OMS. Et l'OMS a appelé la police de Genève, qui sont venus dans des paniers à salade, on appelle ça en Suisse. avec leurs sirènes. Donc, une réaction mais disproportionnée, répressive, vraiment très inappropriée pour une organisation qui est d'utilité publique. Enfin, c'est un service public. On est des fonctionnaires internationaux avec des devoirs envers le public. Donc, c'est une réaction extrêmement inappropriée, indigne. Maintenant, depuis, je sais par mes contacts à l'intérieur de l'OMS qu'on gêne, ça c'est absolument clair, que la directrice générale, qui est maintenant Margaret Chan, décourage le personnel à faire des contacts avec les Vigidor, et elle a passablement dépeint le mouvement dans des termes un peu négatifs.
Paul Rouleau, c'est vous qui avez eu l'idée de cette action à très 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 long terme, les Vigies ?
Eh bien oui, je crois que c'est moi. Je l'ai eu, j'étais en train de lire le livre de Vladimir Tcherkov, Le crime de Tchernobyl. Et là, j'ai découvert tout ce que l'OMS fait et ne fait pas. Et j'étais vraiment scandalisé. Ça a été une découverte et j'avais la rage, quoi. Et quand j'ai refermé le bouquin, je me souviens encore du jour, de l'heure, même de la minute. J'ai dit, je vais aller me planter devant l'OMS avec une pancarte pour dénoncer ce qu'ils font. Et puis c'est arrivé déjà plusieurs fois dans ma vie où j'ai des impressions nettes, comme ça, puis quand ça me fait ça, il faut que ça marche.
C'était pas un petit trajet ? Vous habitez en Bretagne, pas à Genève ?
Oui, j'étais en fond de la Bretagne d'abord. Donc j'ai eu cette idée-là, j'en ai d'abord parlé à ma femme, à qui j'ai déjà quelquefois fait des grandes déclarations comme ça. Elle sait que c'est un grand barouf dans la maison. Mais bon, Thérèse est donc bien partante avec moi. Et puis elle a plutôt trouvé que c'était une bonne idée. Et puis on a cherché le numéro de téléphone de Vladimir Tcherkov, et à qui j'ai exposé l'idée, quoi. Et qui tout de suite m'a dit, moi aussi je marche, quoi. Et puis, plus encore une autre personne que moi, je connaissais dans les milieux antinucléaires. Et assez rapidement, on a eu une vingtaine de personnes qui, eux, avaient tout un tas de gens derrière eux, quoi, qui avaient des réseaux. Et on s'est dit, on a déjà 20 personnes, le coup est jouable, quoi. Voilà.
Avec 20 personnes.
Oui, mais... ouais, parce qu'au départ, on s'est dit, de toute façon, il y aura des irréductibles. Il y aura ceux qui... les têtus, hein. Et mais on pressentait que l'idée allait avoir l'adhésion de pas mal de gens. On le pressentait. On pressentait que ça pouvait marcher. Et donc, d'une certaine façon, on est parti confiant. Et de fait, ça a marché, quoi. Donc, on est passé par le réseau qui en a fait état. Ça, c'était en 2006.
Le réseau Sortir du nucléaire.
Oui, c'est ça. Donc, c'était en 2006. C'était printemps 2006. Que j'ai eu l'idée, donc, etc. Et déjà en août, à la rentrée des vacances, j'avais contacté donc cette vingtaine de personnes qui se disaient prêts. Et là, on s'est dit, il faut qu'on fasse une réunion à Genève. Et donc, il y a eu une première réunion à Genève ici. Puis j'ai contacté aussi les gens de Genève, Contratome ici. Donc tout ça, ça se mettait pas mal. Et là, on a fait aussi le contact avec Alison, qui a été déterminant. Parce qu'Alison, qui elle, se bagarrait à un autre niveau, elle n'était pas du tout dans les milieux sur les conséquences sanitaires de la radioactivité, elle était plutôt sur le sida. Elle nous a beaucoup encouragés, puis on avait quelqu'un de l'OMS qui connaissait bien la question.
Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle vous a apporté comme information ? C'était plus son attitude ?
Elle nous a confirmé que l'OMS magouillait, que l'OMS était sous influence et tout ça, quoi. Et puis, nous, on imaginait les employés de l'OMS. Et puis là, on avait quelqu'un qui avait travaillé dedans. Voilà. Parce que notre action, finalement, elle va vers les employés. On travaille la conscience des employés. Et on espère, comme dans toute organisation, on espère qu'un jour, ces employés vont faire bouger des choses. Nakajima, l'ancien directeur de l'OMS, il a bien dit en 2002, alors qu'il n'était plus directeur, que l'OMS était sous influence de l'AIEA. C'est pour ça que les actes n'ont pas été publiés des conférences. Donc, si je reprends la petite histoire de la progression, donc on est en septembre 2006 et on décide de faire une réunion à Genève où on invite des représentants du réseau, on invite Michel Fernex qui était dans IPPNW, les médecins contre la guerre nucléaire.
Bon, on contacte aussi Enfants de Tchernobyl, Bélarus, la CRIRAD, et encore peut-être d'autres groupes j'ai oublié. Hein. Et tout ça, on fait une réunion avec une vingtaine de personnes à Genève. Quoi. Et ça démarre. La décision est prise de créer un collectif et de démarrer.
La décision, ça a tout de suite été d'être là tous les jours ?
Tous les jours, oui. Ouais. De toute façon, c'était dans l'essence de cette affaire-là, c'était d'être là à 8h le matin, quand les envoyés viennent prendre leur travail. Ça, pour moi, symboliquement, c'est très important. On fait notre journée comme eux. Il ne faut pas arriver à 10h, entrer dans les pieds, et on repart à 4h parce qu'il va faire froid. On fait la même journée qu'eux. À mon avis, on convainc autant, voire plus, on se donne ce cadre-là de temps pris. Eux, ils ont leur temps pris. Et c'est comme ça qu'on va faire écho chez eux.
Ouais. Donc de 8h à 18h.
8h, 18h, oui.
Tous les jours ouvrables.
Oui, c'est ça. Et puis aussi, c'est... Il n'y a pas besoin d'être nombreux. Même moi, je pense que... on programme toujours 2-3 personnes dans la semaine, surtout l'hiver, quand il fait froid. Mais on interpelle d'autant plus la conscience, à mon avis, de la personne, qu'on est une personne. Si c'est le groupe, dès qu'il y a un groupe, l'autre, il peut dire en face, ben oui, mais il y a la chaleur du groupe, il y a l'émulation du groupe, mais personne contre personne. Finalement, là, je suis tout seul, je suis avec mes pancartes. C'est comme si je m'adresse à celui qui passe, mais je m'adresse à lui personnellement.
Donc j'imagine qu'au début, il doit y avoir un certain élan d'enthousiasme, une envie de faire, oui. Et puis progressivement, la routine s'installe.
Ben là, ça dépend pour qui. Hein. Moi, à mon niveau, la routine ne s'installe pas tellement parce que je suis toujours en train d'essayer de trouver d'autres vigies, mais ce n'est pas que moi. Hein. Je suis très pris par ce planning qu'il faut remplir. Je suis pas mal occupé aussi pour trouver des hébergements pour les gens qu'il faut. Donc, je suis la tête dans le guidon. Ce qui revient présent à mon esprit, c'est on est une équipe qui est déterminée, qui met tout son temps, pratiquement. Disons qu'on est 7-8 personnes dans le collectif qui sont très pris. Bon, c'est pas du côté de ces gens-là que le doute va s'installer sur le bien fondé de continuer. Ce qu'on a à veiller, c'est de garder le contact avec tous ces vigies qui viennent ponctuellement, une fois par an, une fois tous les 2 ans.
Alors dans la rue, il y a beaucoup de voitures, il y a peu de passants. Est-ce que vous avez quand même l'impression que vous atteignez les gens ?
Oui, c'est vrai que c'est essentiellement des voitures qui passent, mais on est d'abord là parce qu'on est face à l'OMS, on est là pour montrer à l'OMS qu'on trouve insupportable son attitude. Et donc les piétons qui passent, c'est un plus, mais c'est notre démarche est d'abord vis-à-vis de l'OMS.
Donc les gens vous voient par les fenêtres, même si vous ne voyez pas ce qui se passe dans ce grand bâtiment vitré ?
Oui, effectivement, les gens peuvent nous voir par les fenêtres et ils nous voient surtout quand ils passent devant nous avec leur voiture ou en bus, puisqu'ils passent tous devant nous le matin ou le soir.
Ils vous parlent parfois ?
Oui, oui, quelques-uns parlent ou font des signes. Et puis, il y a quand même eu au moins 150 personnes travaillant à l'OMS qui sont venues nous parler et chercher des dossiers pour se renseigner, parce que ça les interpelle quand même, notre présence ici depuis 3 ans. Et notamment dans le froid, ils doivent se dire que si on est là toujours, c'est qu'il y a peut-être un problème quand même. Quoi.
Comment est-ce que vous occupez votre journée ? À quoi est-ce que vous pensez toute la journée ?
Ouais, disons, quand on est plusieurs vigies, on parle un peu entre nous. Et puis sinon, on pense aussi à nos raisons d'être là. Parce que c'est vrai que ça... Il faut trouver la motivation aussi pour être là. Et donc, ça demande de s'interroger sur... qu'est-ce qu'on veut vraiment dénoncer, et puis effectivement de mesurer les conséquences de ce problème, et puis c'est ça qui nous donne envie de continuer, et puis ouais, voilà, c'est un peu, mais c'est assez varié les journées, enfin, que ce soit en discutant avec les gens qui passent ou ce qui nous passe par la tête, que ce soit par rapport à cette action-là ou toute autre chose, voilà.
Paul Rouleau, si on vient maintenant sur ce bout de trottoir, un coin de rue, face à l'OMS, avec un trafic important de voitures.
6 à 7000 voitures.
Vous les avez comptées? Vous avez le temps?
On a compté, on les a comptés, quoi. Tiens, on va compter sur 10 minutes combien il en passe à telle heure de la journée. On a fait ça bien parce qu'on est des gens très sérieux. Et c'est 6 à 7000 bagnoles, quoi. Et pas des petites, hein, c'est de la belle bagnole. Hein.
Vous allez vous demander comment vous occupez votre temps? C'est un élément de réponse, c'est peut-être pas le seul.
Quand on est deux sur la vigie, ben on cause un petit peu, mais ça dépend avec qui on est. Moi je ne suis pas très bavard. Et même, j'aime assez faire la vigie seule. Alors, comment j'occupe mon temps? Eh bien, c'est en me redisant qu'est-ce que tu fais là, hein, parce que voilà, faut s'imaginer, là, on est debout, là. S'imaginer que ces gens-là qui passent, ils nous ont vus parce que ce sont à peu près toujours les mêmes. Ce sont les employés des agences internationales. Ça fait 3 ans qu'ils nous voient. Donc, on ne fait plus la surprise. Et de se dire, pour pouvoir rester à tenir là, il faut se dire, bon, voilà, comment c'est important que je reste là? Et pour moi, ce qui est important, c'est de garder visible la problématique. Le jour où on ne sera plus là, pour moi... Une lutte, enfin c'est comme la publicité. Si on n'est pas vu, si on n'est pas entendu, on n'existe pas. Et si on ne continue pas de faire voir la problématique de l'OMS qui est tenue par l'AIEA, hein, soumise à l'AIEA, si on abandonne la partie visible de ça, eh ben ce sera terminé, quoi, pour moi. Il y a eu, avant le début de la vigie, il y a eu des luttes à ce niveau-là. Enfin, il y avait Contratom qui organisait tous les ans une action ponctuelle. Mais je ne pense pas qu'avec une action ponctuelle, un jour par an, une heure par an, on va faire avancer le Schmilblick. Tandis que par une présence continuelle, je pense qu'un jour ou l'autre, on va réussir. On ne va pas régler tout le problème, mais ça va bouger.
Vous resterez jusqu'à ce que l'OMS dénonce son accord avec l'AIEA qui remonte à 1959?
Ça, je ne sais pas combien de temps je vais vivre, hein. Mais moi, je suis vraiment joyeusement décidé à venir 2 fois par an, à faire mes 15 jours de vigie par an. Oui, mais absolument. Et c'est un grand plaisir. Oui, ceci dit, ça, je tiens à le dire, parce qu'on me dit, disons, il te faut du courage et tout. Mais pour faire quelque chose qui est passionnant, bah, ce n'est pas vraiment le courage. Hein, c'est... Quand ça nous passionne, on y va. Hein, on a froid aux pieds l'hiver. Mais que j'ai froid aux pieds là ou que j'ai froid aux pieds ailleurs.
Ce qui est passionnant, c'est de savoir que vous êtes au bon endroit, là où vous voulez être.
Oui, certainement. Oui. Parce que c'est tellement... c'est terrible, cette position que l'OMS est là. C'est déterminant, quoi. C'est vraiment... L'AIEA, elle fait son business, elle fait du nucléaire, c'est son business, on ne va pas lui reprocher. Mais par contre, l'OMS, elle a protégé la santé. Il y a des sommes énormes qui sont consenties pour payer les employés pour faire ça, et elle fait le contraire de ça. Alors ça, c'est absolument révoltant, quoi. Et c'est de l'argent public. Oui, il n'y a pas de mots, pratiquement, quoi. Ouais. Il n'y a pas de mots, il n'y a plus qu'à se mettre devant, quoi, et puis dire ça ne va pas, quoi.
Ça vous est arrivé de discuter avec des employés de l'OMS?
Oui. Une fois, il y a quelqu'un qui est arrivé de l'OMS. C'était pas le jardinier, hein, il était bien sapé. Tout de suite, j'ai bien compris qu'on n'allait pas avoir affaire au jardinier. Et il regarde les panneaux comme ça et il me dit « Tout ce que vous dites là, c'est du mensonge. Je suis au département des radiations et tout ce que vous dites là, c'est du mensonge. » Alors, je lui dis, vous êtes au courant qu'il y a eu 800 000 liquidateurs à aller sur le réacteur ou bien autour dans les zones très contaminées. Oui, mais je suis bien au courant de tout ça. Et je dis, vous savez que ce à quoi ils ont été exposés en radiation? Oui, mais bien sûr. Et à votre avis, donc, 800 000 personnes exposées à des radiations aussi terribles, on n'aurait que 30, en ce temps-là, c'était au début, ils en étaient encore à 37 morts. Depuis, ils ont révisé, ils en ont mis 52. Oui, il n'y a que 52 personnes qui sont mortes, et pas plus, et voilà. Et vous faites de la démagogie. Bon, moi, j'ai dit, vous allez me donner votre adresse, hein, parce que vous m'intéressez. Vraiment, moi, je n'ai jamais eu tellement la santé que je lui dis, mais rencontrer quelqu'un comme vous qui semblait être vraiment... Vous avez la santé, on va se débrouiller pour trouver du césium, du graphite, hein, parce que moi, j'aime bien vérifier. Et puis, on va vous faire manipuler ce césium, ce graphite. Nous, on restera assez loin, quoi. Et puis, après, on va faire un suivi médical de vous, quoi. Parce qu'il ne faut pas baratiner, il faut arriver aux choses... Arrivons aux faits, quoi. Hein. Alors, vous me filez votre adresse. Et là, il a disparu dans la seconde qui a suivi. Il a pas voulu venir brasser le graphite et le césium.
Donc, des réactions tout de même assez hostiles.
Mais aussi, si on devait faire la comptabilité des réactions, on a bien plus de réactions... favorable de la part de gens de l'OMS. On doit en être rendu, parce que sur nos petits cahiers, là, on note tout. On est rendu à plus de 100 personnes employées de l'OMS qui sont venues nous voir pour nous dire « Tenez bon !» Et on n'en a pas 10 qui sont venus nous voir pour nous dire « Vous êtes des menteurs, etc. » Non. Les réactions d'employés de l'OMS nous sont favorables pour ceux qui s'expriment.
Plus les conditions sont difficiles, peut-être, et plus votre action est impressionnante. Ou bien est-ce que l'été aussi, ça prend un petit air de vacances, ou ça reste quelque chose de très rigoureux?
L'été, c'est vrai que c'est physiquement plus facile, quoi. Mais c'est vrai que quand moi, je suis là, ça m'est arrivé de faire la vigie, là, et qui je l'ai, hein, et ben, je me dis, on est plus efficace. On est plus efficace sous la flotte et tout. Parce qu'en face, ils nous ont amené du chocolat quand même, les gens de l'OMS. Hein, ils nous ont amené des boissons chaudes. Mais même, on nous a invités, mais là, on a quand même, on a dit non, on nous a invités à aller prendre des boissons chaudes à l'OMS.
Et ça, vous avez refusé?
Moi, je pense qu'il faut, c'est chacun chez soi. On ira à l'OMS quand ils nous diront de venir pour parler.
Il y a eu tout de même des prises de position de l'OMS sur cette question.
Oui, mais ces prises de position de l'OMS viennent directement de l'IAE. Ils viennent directement de l'IAE. On peut regarder les documents produits par l'OMS et puis vous regardez le document précédent ou publié une année avant, ils sont identiques. Et le dernier en lieu était ce qu'ils appellent le Forum Tchernobyl, dans lequel encore on persiste à dire... qu'il y a eu en tout et pour tout à peu près une cinquantaine de morts parmi les liquidateurs et qu'il y aura en tout 4000 morts de cancer. Quand on regarde les chiffres qui viennent des chercheurs indépendants sur tous les trois pays, il y a une différence dans les chiffres qui est absolument frappant. C'est des contradictions totales.
Qu'est-ce qui se passerait si l'OMS... se ranger à ces chiffres que vous donnez, Alison Katz, et décider de prendre en charge cette question. Qu'est-ce que l'OMS pourrait faire?
Alors, elle pourrait organiser, par exemple, un forum. Et en fait, nous sommes allés voir les gens de l'OMS en juillet de l'année passée, et c'est exactement ça qui était proposé. Et nous étions étonnés en bien. C'était un forum dans lequel... ce qu'ils ont appelé nos experts, feront un débat avec leurs experts. Maintenant, pour l'instant, ça n'est pas organisé. Nous leur avons rappelé de cet engagement et on n'a pas encore reçu de réponse. Mais on est plein d'espoir. Ça serait l'événement le plus important. Et évidemment, de revoir l'accord entre l'IAE et l'OMS.
Oui, ça, c'est ce que vous souhaitez. Moi, je vous demande de réfléchir encore un pas au-delà et de me dire ce qui se passerait si l'OMS découvrait finalement qu'en effet, il y a des conséquences à l'explosion de Tchernobyl.
Alors, il y a deux aspects du problème. L'un, évidemment, concerne l'assistance aux populations dans le besoin, dans les territoires. Il faudrait des actions, mais beaucoup, beaucoup plus profondes. Personne ne devrait être en train de manger l'alimentation qui pousse dans ces pays-là. Ils sont contaminés pour très, très, très longtemps. Ça, c'est une chose, c'est de s'occuper de la population là-bas. Et la deuxième chose, évidemment, C'est qu'aujourd'hui, on est face à une décision sur les options énergétiques et on ne peut pas prendre ces décisions sans avoir une base de science indépendante et sérieuse. Et du moment où l'OMS reconnaît les vraies conséquences sanitaires de Tchernobyl, le nucléaire, c'est fini demain. D'ailleurs, c'est ça la grande crainte. C'était la grande crainte dès le début. C'était la crainte avec Hiroshima et Nagasaki. On est en train de parler d'une dissimulation qui dure depuis 50 ans. Et quand on pense que Tchernobyl représente une centaine de fois de plus de radionucléides émis dans l'atmosphère que Hiroshima, on a une idée du sérieux du problème. Et si on ajoute à tout ça tous les essais nucléaires qui ont aussi ajouté des milliers de fois plus qu'Hiroshima, c'est ces conséquences sanitaires. Dès qu'ils sont reconnus, ce n'est plus une option énergétique pour le monde.
Christophe Hélin, au-delà de cette vigie quotidienne qui existe depuis 3 ans, cette année, à l'occasion de, je n'ose pas dire l'anniversaire, mais la commémoration de Tchernobyl, le 26 avril, une action doit se préparer à Paris.
Oui, alors effectivement, cette année, on a décidé de faire une action avec un peu plus de visibilité que la vigie, enfin, comme on fait tous les ans à l'occasion du Tchernobyl Day. Mais les 2 années précédentes, on a fait cette action à Genève. Et cette année, on a décidé de la faire à Paris parce qu'on considère de toute façon que c'est un problème qui concerne tout le monde et tous les ministres de la Santé de tous les pays. Et puis, à Paris, on va organiser les 24, 25 et 26 avril sur le parvis des droits de l'homme au Trocadéro une présentation des portraits de 300 portraits de liquidateurs de Tchernobyl, c'est-à-dire ceux qui sont allés éteindre l'incendie du réacteur et qui ont nettoyé le site ensuite et puis qui sont morts très rapidement ou qui continuent à mourir. Et ces 300 portraits ne représentent évidemment qu'une infime partie des milliers ou dizaines de milliers de liquidateurs qui sont morts, quoi. C'est vrai que ça interpelle énormément les gens, puisqu'on a tous ces portraits avec les dates de naissance, de mort, les noms. Et pour beaucoup de gens, ils découvrent un peu cette question des liquidateurs, soit parce qu'ils étaient indifférents à Tchernobyl, ou soit parce qu'ils n'étaient pas nés à cette époque-là. Et ils apprennent alors qu'il y a eu des centaines de milliers de liquidateurs qui sont allés pour éteindre l'incendie ou nettoyer le site. Et ça les interpelle quand même beaucoup, quoi.
Donc pendant 3 jours, sur l'esplanade du Trocadéro, le 24, 25, 26 avril.
Oui, c'est ça. Oui, de 10h à 20h, nous serons présents là-bas. Et il y aura donc une inauguration de cette exposition le samedi 24 avril.
Voilà, c'est terminé pour ce matin. Vous savez donc que vous pouvez venir le samedi 24 avril au Trocadéro, rencontrer les vigiles de l'OMS et voir l'exposition qu'ils proposent. En attendant, vous pouvez télécharger cette émission sur notre site pendant une semaine, franceculture.com. Vous pouvez également nous téléphoner au 01 56 40 36 72 ou nous écrire à Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Genepin, Anne Gouzon, mixage, Michel Mestre, réalisation, Olivier Bétard. Bonne semaine à tous.